Candide et les experts. Une émission produite par Monique Fauché.
Patrick Coste, bonjour.
Bonjour Monique.
Bonjour à nos auditeurs. J'aimerais que, avant que nous terminions ce cycle, nous terminerons par des suggestions, des desiderata, enfin ce que l'on souhaite évidemment, vous pourriez nous parler des formations des enseignants. Que peut-on dire sur les formations? Est-ce qu'elles sont adaptées? Est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce qu'elles sont trop complexes? Puisque on sait qu'actuellement il y a un manque d'enseignants et que les CAPES et l'agrégation sont de moins en moins fournis en personnages, si je peux dire.
Alors, d'abord, en termes de formation, il y en a deux. Il y a la formation initiale et puis il y a la formation continue, hein, qui sont deux formations pour les enseignants. Alors, pour les auditeurs, il faut savoir que nous sommes dans une période de réforme de la formation initiale. Je vais l'expliquer très rapidement.
Il y avait l'école normale. L'instituteur.
Alors, il y a eu l'école normale de l'instituteur qui maintenant remonte un peu dans le temps. Et là, on est sur le régime...
En quelle année, pardon ?
L'arrêt la date exacte, je crains de ne pas pouvoir vous la dire précisément.
Et vous pensez que ça a été une bonne chose, cette suppression ?
Alors, c'est tout un sujet.
Oui. Hein,
est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Je vais l'expliquer.
D'accord.
On va voir quel est mon point.
On a que 13 minutes,
voilà,
vous le savez, hélas.
On va voir mon point de vue par rapport à ça. Mais déjà, je renseigne les auditeurs par rapport à la réforme. Si vous voulez, dans la situation antérieure, il y avait 3 années en licence, que en général on passait à l'université, et ensuite il y a 2 années en INSPE, Master 1 et Master 2, et on passait le concours en deuxième année, c'est-à-dire en cinquième année, hein, les CAPES et les AGREG. Et derrière, il y avait une année de stage en responsabilité, qui fait que, de fait, un parcours de formation de l'enseignant, c'est 6 années, avec l'année de stage en responsabilité. Ce qui est en train de se passer est un principe de réalité, en quelque sorte. Il y a un problème d'attractivité, on en a parlé dans d'autres émissions. Et donc, on suppose que de faire 5 années de formation avec le concours à la fin, qui crée des conditions d'une certaine menace par rapport aux résultats, alors même qu'on est engagé dans 5 années. Donc, pour éviter cet effet un peu d'appréhension par rapport au concours, la réforme consiste à déplacer le moment du concours en troisième année. C'est-à-dire que...
Donc, une formation se fait en 3 ans.
Donc, il y a la licence. Mmh. Ceux qui veulent devenir enseignants du second degré auraient des modules sur la troisième année de licence. Admettons qu'ils soient en lettres. Ils auraient des modules de préparation du concours. Ceux qui veulent devenir enseignants en licence. Et ils passeraient donc le concours à l'issue de leur troisième année de licence.
D'accord.
Licence plus concours. Voilà. Alors que ça se faisait
en
cinquième année. Et c'est une stratégie d'effet d'attraction d'un problème, justement, de recrutement sur les CAPES, puisqu'on a perdu 75% des candidats sur le CAPES. Et puis, il y a un dispositif également de préparation des enseignants qui est en train d'être réformé sur le premier degré, qui en volume de recrutement est tout aussi important que celui du second degré. Bon. Et là, il y a des licences qui sont en train d'être organisées, où c'est dès la sortie du baccalauréat qu'on rentre dans une licence d'enseignement dans la finalité de devenir professeur des écoles.
C'est-à-dire en combien de temps ?
Donc en licence, on fait 3 années.
3 ans aussi.
Voilà.
Et comme pour le collège.
Comme pour le collège, à l'issue de la troisième année, on passe le concours, qui est le concours de professeur des écoles. Et derrière ça, on fait 2 années de formation professionnelle en INSPE. Voilà. Alors, vous m'avez demandé, vous m'avez posé comme question, école normale, pas école normale. Bon. Parce que la formation est très largement critiquée. Je dois dire, au passage, quand même, qu'il y a une difficulté en particulier sur les mathématiques. sur les formations en mathématiques, que ce soit sur le premier degré, sur le second degré, y compris sur les sciences physiques. Pourquoi ? Parce que les gens qui font des mathématiques, ils préfèrent faire des écoles d'ingénieurs et gagner davantage de sous et d'avoir une promotion sociale plus valorisante que celle qui est devenue la situation d'enseignant. Donc il y a un déficit du côté de l'enseignement des mathématiques et des sciences.
Oui, qu'on ne peut pas forcément retrouver avec le français, par exemple.
Et que sur le français, les personnes qui font une licence de français, de toute façon, en termes de profession, ils ont comme débouché possible l'enseignement et pas grand-chose d'autre. Hein, ce qui, évidemment, fait des conditions qui sont différentes. Alors, la question, c'est, est-ce un bien, est-ce un mal ? Écoutez, ce que je peux dire, c'est la chose suivante. C'est que dans l'état actuel des choses, il y a 18 enseignements à suivre en licence, 6 première année, 6 deuxième année, 6 troisième année. Et ensuite, il y en a de nouveau 6 en master première année et 6 en master deuxième année. Donc si on fait le cumul du nombre d'enseignements à suivre par les étudiants, ça fait 30. Si à ça on rajoute les évaluations qui se font sur les stages, où il y a 3 ou 4 évaluateurs qui vont décider des stages pratiques, on a un parcours avec quasiment 35 évaluateurs.
C'est énorme.
Donc, quoi qu'il en soit, si on est des gens de bon sens, un peu raisonnables, on peut se dire que ce florilège d'enseignement et d'évaluateurs ne peut pas contenir une cohérence. Donc il y a quelque chose qui est comme une sorte d'effet de complexité qui ne garantit pas justement...
On a cumulé.
Voilà. Alors, pourquoi on en est là ? D'abord, il y a la question de l'université, qui donc est venue se greffer sur l'école normale. L'école normale, c'était des professeurs qui avaient leur statut sur l'école normale. Or maintenant,
on a remplacé par
l'INSPE, il y a des professeurs de l'INSPE, il y a des professeurs de terrain qui viennent sur l'INSPE, et il y a l'université. C'est-à-dire que c'est une collaboration en triptyque. Bon. Et ce qui explique un peu l'effet de complexité dans lequel on s'est un peu perdu avec ces formations. Parce qu'au fil des réformes, toutes les corporations ont voulu exister et se pensent indispensables. Mais en étant dans cette logique de servir finalement les corporations, on a quelque peu instrumentalisé la formation elle-même du stagiaire. Et quand on regarde les forums des stagiaires qui s'expriment, ils n'en reviennent pas. Du volume, du nombre d'enseignements par lesquels ils doivent passer, ils doivent faire un mémoire, ils doivent préparer le concours, ils ont les stages en responsabilité, ils ne savent plus où donner de la tête.
On les démotive.
Voilà. Et donc il y a un effet des réformes et du corporatisme dans la construction de ces formations qui a le défaut d'une complexité. Hein. Donc notre dernière émission, c'est les suggestions par rapport à l'avenir. Ma première réponse, ce serait simplifier pour être raisonnable. Hein. Alors donc, bon, ça c'est déjà un sujet, celui de cette complexité et du nombre d'évaluateurs. C'est le Conseil supérieur des programmes qui a l'objectif de la cohérence entre les programmes et les formations. Hein. Donc je leur souhaite bien du plaisir pour
non,
construire cette...
Mais il œuvre depuis combien de temps ?
Pardon ?
Il œuvre depuis combien de temps ?
Alors le Conseil supérieur des programmes, il a été précédé par le Haut Conseil des programmes, et le Haut Conseil des programmes avait été précédé par un pilotage par l'inspection générale. Hein, ça aussi, c'est toute une évolution, si vous voulez, de la façon dont le système est piloté. Quoi qu'il en soit, on a cet effet de complexité. Puis il y a un deuxième sujet sur la formation initiale. Et on n'a pas parlé de la formation continue. Mais sur la formation initiale, vous avez des universitaires. Et les universitaires, figurez-vous, ce sont des têtes de Janus. Alors je m'explique. Les têtes de Janus, ce sont des êtres qui ont deux visages.
Deux visages, oui.
Parce qu'ils sont du côté de la recherche et du côté de l'excellence dans leur discipline. Et donc, comme on est sur des formations professionnalisantes à l'INSPE, ils arrivent avec leur casquette de tête de Janus. Et donc, quelquefois, il y a une orientation de leur part où ils ont plutôt le pied dans la recherche, et leur recherche, qu'ils viennent servir dans les formations. Ils ont travaillé sur tel et tel sujet, et c'est ça qu'ils vont finalement présenter dans les formations professionnelles. Et puis ensuite, ils sont du côté de l'excellence de leur discipline. Et donc ça, le fait qu'il y ait cette position de double identité des universitaires par rapport à ce que c'est qu'une formation professionnalisante, ça pose un certain nombre de problèmes. Et donc, il y a un certain nombre de stagiaires qui ont l'impression, quelquefois, qu'on est sur des propositions qui sont trop spéculatives par rapport aux besoins qu'ils peuvent avoir, eux, sur la gestion de leur classe.
Et est-ce qu'il y a des exercices, je dirais, pratiques ?
Alors oui, c'est-à-dire que il y a par exemple des professeurs de terrain qui viennent intervenir sur l'INSPE. Et ces professeurs de terrain sont susceptibles de présenter des séances modèles et puis des séquences. Et puis aussi des formations où il y a un va-et-vient entre les problématiques de la gestion de la classe sur le stage et puis la façon dont on va gérer. Il y a des tas de questions qui se posent là.
Oui, c'est-à-dire, par exemple, des psychologues peuvent venir.
Oui, aussi. Tout à fait. Il peut y avoir aussi ce genre de partenaires. Parce que sur la question de l'hétérogénéité, où il y a de plus en plus des questions psychologiques qui sont susceptibles de se poser, la gestion de la classe passe aussi par possiblement ce type d'outils. Mais bon, mon hypothèse, c'est que non seulement vous avez 30 enseignements plus les évaluateurs sur les situations en responsabilité, mais là-dessus, on rajoute des métalangages de compétences, donc on est susceptible de vous construire sans compétences sur le parcours de l'INSPE.
Eh bien, voilà quelque chose à réformer, une nouvelle réforme en perspective. J'attends votre second bouquin. Patrick Coste, je vous remercie. On doit terminer. Yannick nous fait signe et nous vous retrouvons la semaine prochaine. Un grand merci.
Au revoir.